Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois? Que Dieu soit béni. Bonsoir à vous tous. Bonsoir aux femmes et aux serviteurs de Dieu qui sont venus nous rejoindre encore ce soir. J'aimerais vous inviter à lire ces quatre portions d'écriture qui nous servent de point de départ ce soir. Évangile de Jean, chapitre 11, du premier au troisième verset. Jean, chapitre 11, 1 à 3. Il y avait un homme malade, Lazare. Il était de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Lisons 1 Samuel, au chapitre 1er, versets 12 à 17, versets 22 à 26. 1 Samuel, chapitre 2,
12, 17,
22 à 26. Les versets sont les mêmes. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents.
Ils
piquaient dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite, ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices: donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair cru qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Les serviteurs répondaient: non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Versets 22 à 26. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes, celles qui venaient s'assembler à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple, remarquez, tout le peuple, pas quelques, tout, connu de tout le monde, vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu les jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. J'aime le verset 26. Alors qu'il y a la pourriture d'un côté, le jeune Samuel continue à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Troisième portion, premier livre des rois. Au chapitre 13, le seul verset 33. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveaux prêtres des hauts lieux parmi tout le peuple. Soulignez bien ce qui va suivre. Quiconque en avait le désir, il est consacré prêtre des hauts lieux.
Ça
me rappelle un chant quand on était petit au Lingo Koti à Ofele au Kouvi au Simbi. Quiconque voulait. Pas de critères. Celui qui veut, devient.
Acte
des Apôtres, chapitre 19, enfin. Verset 13 au verset 15e. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus.
Ils
le faisaient en disant: je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêche.
Ceux
qui faisaient cela étaient sept fils d'Eskeva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Les cinq maladies qui rongent l'église de mon pays, ton pays, notre pays. Hier, après la longue introduction qui a eu comme sujet, raison d'être et motivation de cet enseignement, aujourd'hui nous abordons le deuxième point, les maladies de l'église de mon pays. Et avec la grâce de Dieu, selon que le temps va nous le permettre, nous aborderons déjà ce soir la première maladie qui ronge l'église de mon pays. J'ai intitulé la maladie de Jéroboam et des fils d'Eskeva, ou l'absence d'appel authentique et d'expérience authentique d'avec Dieu. Mais avant d'aborder ces points traitant de la maladie, j'aimerais sur un long moment faire deux choses. J'aimerais d'abord avec vous que nous essayons de nous mettre d'accord sur le contenu du terme maladie. Et puis avec la grâce de Dieu, je parlerai de quelques principes attachés à la maladie, à la fois sur le plan physique et spirituel. Qu'est-ce donc la maladie? Le dictionnaire définit la maladie comme étant l'altération de l'état de santé, c'est-à-dire un dysfonctionnement ou une baisse de la qualité de vie qui se manifeste par un ensemble de signes et de symptômes qui peuvent être perceptibles directement ou qui se caractérisent par des troubles généraux. Et ces troubles peuvent être généraux ou localisés à quelque endroit. Ces troubles peuvent toucher des fonctions ou des organes. Altération de l'état de santé. Et combien il est important que nous puissions maîtriser cela. Et à ce niveau, j'aimerais dire quelque chose par rapport à la maladie. Qu'il y a 11 caractéristiques que j'ai attachées à la maladie, à la fois sous le plan physique et sous le plan spirituel. La première des choses, c'est que la maladie n'est pas une bonne chose. Elle n'enrichit pas, elle appauvrit. Elle diminue, elle baisse la qualité de vie. Là où il y a maladie, il y a perte.
Et pas ils vont les aller comme ça.
Marc chapitre 1er. Verset 30 à 31. Nous montre l'exemple de la belle-mère de Pierre. Jésus-Christ arrive dans cette contrée.
Jésus-Christ a commis dans gambo dans boka.
Et la Bible a dit la belle-mère de Pierre était couchée.
Bible le dit maman bokilo a pételo ala la
qui. Ayant la fièvre, une autre version dit il était couché à cause de la fièvre.
Balobi azaki na moto na nzoto na e et pas ils balobi ala la.
Elle est couchée non pas parce qu'elle aurait voulu. C'est cette altération de sa santé qui l'oblige à être inactive. Elle aurait voulu faire autre chose. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus et il dit. Et la Bible dit, Jésus s'étant approché, il a fit lever en lui prenant par la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta,
où
elle est servie. Elle redevient active parce que l'altération est partie. Si c'est ça sur le plan physique, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Quand spirituellement on est malade, on perd des choses que l'on faisait, on ne peut plus les faire. La volonté de faire est là, mais la possibilité et la capacité de faire n'est plus. Et je me suis rendu compte qu'avec les années dans le ministère, que quand on est malade spirituellement, cela influence non seulement notre vie, mais en tant que serviteur, cela influence même la qualité de notre ministère. Le pasteur Vernon me disait toujours, les domaines dans lesquels tu n'es pas victorieux, tu auras difficile à prêcher. Soit tu es tellement audacieux, tu en parleras, mais ta conscience va te réprocher. Mais la plupart des fois, quand on est malade, il y a des messages, il y a des sujets que l'on zappe. Un aîné qui est en Amérique du Nord. Le pasteur Kabuya m'a dit des choses merveilleuses il y a 2 mois et demi. Il m'a dit, Roland, garde l'intégrité, garde une certaine vie. Car cela va protéger ton message. Je l'ai vu dans cette ville. Je l'ai vu dans notre pays. Des aînés, des gens de ma génération qui prêchaient un certain message. Mais dès l'instant où ils sont tombés dans certains travers, leur théologie a changé. Leur message a changé. Homme de Dieu, j'aimerais te dire, aîné que je respecte, ami de ma génération, n'adapte pas la doctrine à ta vie. Que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Que les choses ne soient pas atténuées parce que tu es tombé. Que le mal reste mal parce que c'est écrit. Seigneur, épargne-moi de commencer à adapter la vie, plutôt adapter le message à ma vie, parce que je succombe dans tel domaine, je ne peux plus dire ceci. Si vous êtes d'accord avec moi, aidez-moi à dire amen. Et cet aîné m'a dit, certaines personnes, tu n'as pas besoin de révélation pour savoir qu'ils ne sont plus victorieux dans un domaine. Regarde simplement leur message. Tu peux voir de telle période à telle période, ils prêchaient ça avec véhémence. Et tu vois de là à là, ça disparaît. C'est jamais un hasard. Quand le message disparaît, c'est que la vie aussi sûrement a disparu. Malade spirituellement. Matthieu 7, verset 16 à 17, dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Est-ce qu'on peut cueillir des figues là où il y a des chardons? Il dit, tout arbre bon porte des bons fruits. Mais les mauvais arbres portera des mauvais fruits. Vous voulez savoir si un arbre est bon? Quel genre de fruits? Quel genre de message?
Deuxième
principe, c'est que la maladie a des étapes. ou des phases, surtout les maladies qu'on appelle les maladies infectieuses. Sur le plan médical, on dit que la maladie a cinq phases principalement. La première phase est appelée la phase d'incubation. C'est le temps qui s'écoule entre la contamination ou les contacts avec le microbe et l'apparition des premiers signes. Cette phase est appelée asymptomatique. Le mal est là, la maladie est là, mais on ne voit rien.
Il
y a des gens que nous voyons apparemment bien, mais déjà infectés. Le temps va nous révéler ce qui est caché en eux. Je peux être en train de marcher là, mais petit à petit, le nombre de globules de microbes en train de prendre le dessus sur le globule blanc. Une lutte est en train de se passer. Et très bientôt, si mes globules blancs n'arrivent pas à tenir, alors les premiers signes commencent à apparaître. Ah, est-ce que tu n'es pas dans une phase d'incubation d'une maladie spirituelle? On te voit prêchant. On te voit en faisant des choses. Mais tu es déjà infecté. Seigneur, si ce matin il y a quelqu'un qui a commencé à être infecté, il est possible que tu arrêtes ça. La deuxième phase, en médecine on appelle ça la phase d'invasion. C'est la phase où il y a l'apparition des premiers signes généraux. Courbature. De quelques poussées de fièvre. Des signes généraux. Qui ne permettent pas forcément de spécifier le mal. Troisième phase. Qu'on appelle phase d'état. Et là, il y a apparition des signes spécifiques. Et ces signes spécifiques peuvent déjà aider à tirer des conclusions. C'est tel mal. Un médecin expérimenté peut déjà tirer des conclusions sans examen des labos, sans autre chose au niveau de cette phase déjà. Quatrième phase, qu'on appelle la phase de terminaison, qui correspond à la diminution puis à la disparition de signes spécifiques. Et cela suppose sûrement que le mal a été attaqué. Et puis enfin, cinquième phase, que le médecin appelle la convalescence, qui est le retour à l'état de santé antérieur plaisant. Je prie que durant ces assises, que les malades spirituels retrouvent la santé et commencent petit à petit à passer par la convalescence. Lorsque la convalescence arrive, il est possible qu'il y ait encore des séquelles, qu'il y ait encore quelques signes, mais le gros est parti. Plus de poussées de fièvre, mais l'appétit n'est pas encore là. Plus de tremblements, mais il y a encore quelques faiblesses. J'aimerais dire avec Dieu, il est possible de retrouver les choses perdues. Ah, il y a un passage de la Bible que j'aime. Quand ma Bible à moi dit, les cheveux de Samson commencèrent à repousser. Avec Dieu, ce n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Avec Dieu, même les morts spirituels peuvent ressusciter. Je ne sais pas jusqu'où le diable t'a amené. Toi, homme de Dieu, que ces jours soient des jours de résurrection. Que ces jours soient des jours de restauration. Que ces jours soient des jours où tu vas revivre. Parce que le diable est un menteur. Celui qui t'a appelé est un jusqu'au boutiste. Les jours où il a appelé Pierre, Il a dit, je ferai de toi. Germe, il n'a pas dit, tu deviendras. Il a dit, je ferai de toi. Dans ton devenir, je serai acteur. Dans ton devenir, je vais participer. Et Pierre est tombé malade. Il a renié le maître. Mais le maître l'a suivi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux redevenir celui que Dieu a voulu que tu redeviennes.
Un
des passages de la Bible que j'aime.
À
une époque, je disais, si c'est un seul verset resté, j'aimerais que ce soit celui-là. Marc chapitre 16, verset 7. Jésus-Christ est ressuscité. Et il donne un message à l'ange. Va dire à cette femme de donner à la multitude de disciples que j'ai. Sois fidèle dans le message. Écoutez le message. L'ange vient dire. Il a dit. Va dire à Pierre. Et à mes disciples. Va dire à Pierre. Et à mes disciples. Ce passage m'a toujours étonné. Pierre n'était-il pas un disciple? Il aurait pu rester. Va dire à mes disciples. Mais il savait que Pierre était malade. Il venait de renier le maître. Avec ce qu'il venait de faire. Lui-même s'était disqualifié. Il voulait dire, va dire à mes disciples, mais surtout à Pierre. Je suis venu dire à un Pierre ce soir, il a encore besoin de toi. Tu es aux soins intensifs, mais tu te relèveras. Tu es entre la vie et la mort, tu te relèveras. C'est ce que j'aime avec ma Bible. C'est dans celui qui relie les maîtres que se cache l'évangéliste de la Pentecôte. Et vous savez, quand Dieu guérit de la maladie, il vous donne des atouts plus que les autres pour montrer ce dont il est capable. Alors que les autres les regardaient, ils diraient, c'est l'ex-régnier. Quand il a guéri, l'ombre des Jean ne guérissait pas. L'ombre de Matthieu ne guérissait pas. C'est l'ombre de Pierre qui a commencé à guérir. Parce qu'il a dit, quand je l'ai guéri, je veux montrer que je l'ai fait. L'ex-malade, il a mis devant la porte du temple. Il dit, or, je n'ai pas. Argent, je n'ai pas. Mais c'est que j'ai. Tu peux être malade hier, mais jamais avoir des choses à donner. Je suis venu dire à quelqu'un, lève-toi de ton lit de malade. Là n'est pas ta place. Un champ t'attend. Les victoires t'attendent. Si tu es d'accord avec moi, aide-moi à dire amen.
Amen.
Ésaïe 38, verset 1er.
Nous
parle d'un homme qui était dans une phase de la maladie. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à mort.
Ézéchias a commis un bokono pene na kufa.
Il était bien portant.
Azalaka na bokolongo no malamu.
Un jour un microbe est entré.
Pe mokolongo ko mikolobe koti.
Ça a commencé à aller presque jusqu'au point culminant.
E baniko kene kino na suka.
Sentait que ses jours étaient comptés.
Abaneki ko ka ete mikolone tikala ki akotanga.
Et là de l'incubation, il a atteint un degré élevé.
Bokono yango ekola ki na nzoto pe koma ki likolo makasi.
Marc chapitre 5.
Malako ya mitano.
Verset 23.
Zela tukumi bale na misato.
On parle d'un autre homme.
Bazolo bela mobali mosusu.
Chef de la synagogue.
Mokonzi ya yanganelo.
Qui a vu sa fille être envahie par l'altération de la santé.
Amona ki mwana ya mwasi bokolongo na nzoto ne kobebi sama.
Mais il s'est évalué ça.
Kasi ya yebi kotala yango malamu.
Il dit au Seigneur.
Alobi na nkolo.
Ma petite fille est à l'extrémité.
Mwana nanga ya mwasi akomi pene na liwa.
C'est pas une maladie qui est au début.
Eza bokono eza le bandelite.
C'est une maladie qui a une phase élevée. À quelle phase de ta maladie tu es? Troisième principe. Devant la maladie, il y a deux options. Soit on est vainqueur de celle-ci, en l'attaque de la maladie en l'attaquant, ou alors c'est elle qui sort vainqueur de nous. Et quand la maladie sort de vainqueur de nous, elle nous amène vers un point qu'on appelle la mort. Cessation de tout principe de vie. Quand la maladie s'invite, il y a ces deux options. Soit c'est nous qui triomphons d'elle et nous retrouvons le temps initial. Soit alors c'est elle qui domine sur nous et ça nous amène vers la mort. Jean 11, verset 1 à 3 que nous avons lu.
On parle de deux sœurs.
Il y avait leur seul frère.
Le seul homme
de la maison.
Celui
qui sortait, qui allait se battre. Un soir, il est rentré. Je ne me sens pas bien. Je vais dormir. J'espère que demain, je serai mieux. Et lendemain, lui qui sûrement sortait de manière matinale, ils ont trouvé quelqu'un grêle
au temps.
Lazare ne va pas bien.
Lazare
va
mal.
Et puis ils ont vu la station s'empirer. Elles ont envoyé un SOS. Allez dire à Jésus. Celui qui l'aime est malade. Sa santé est altérée.
Elles
espéraient un retour à la normale. Jusqu'à ce que le verset 17 montre. Finalement, il est mort. Je peux imaginer leur douleur quand il a rendu son dernier souffle. Qu'est-ce que vous choisissez? D'utiliser tout ce qu'il faut pour arrêter cette maladie dans votre vie, dans votre ministère, dans votre église.
Ou
vous voulez laisser ce mal aller et vous emporter. Quatrième principe. Les progrès et l'avancée d'une maladie. Jusqu'à son point culminant appelé la mort.
C'est-à-dire
un point de non-retour. Sont dus à plusieurs causes. Mais principalement à trois causes. Le fait qu'une maladie s'invite, qu'elle grandisse, sans qu'on puisse l'arrêter, et qu'elle aille jusqu'au point de non-retour. Et là, je parle à la fois sur le plan physique, mais surtout sur le plan spirituel. Qu'est-ce qui amène à ce qu'on aille jusqu'au point de non-retour? La première raison, c'est l'ignorance. Le fait de ne pas être au courant qu'on est malade. Malade, mon Seigneur. Malade, le taux de cholestérol a tellement monté, mais tu consommes encore de la graisse comme si de rien n'était. Élevé, mais tu prends des coca comme si de rien n'était. Tu fais pasteur Vernon, mais prononcer toujours cette phrase.
Il dit Roland,
il
ne
faut jamais creuser sa tombe avec ses dents. Faut pas creuser sa tombe avec ses dents.
Il
dit dans l'assiette, il y a et la vie et la mort. Il y a des gens, quelquefois, quand ils mangent, c'est comme si le dernier repas d'un condamné à mort. Quand on ignore qu'on est malade, parce qu'il y a absence de symptômes visibles, absence d'informations attachées à la maladie, on ne sait prendre les précautions. Qu'il est triste d'être malade spirituellement et de ne pas le savoir. Dans Apocalypse chapitre 3, au verset 17, la Bible nous donne un exemple, celui de l'église de
Laodicée,
qui dans son état,
elle
était malheureuse, elle était misérable, elle était pauvre,
elle
était aveugle, elle
était
nue. Mais la Bible dit elle se croyait riche,
n'ayant
besoin de rien.
Elle
a un problème. Elle ne sait pas qu'elle a un problème.
Il y a
des malades spirituels qui meurent. Parce qu'ils ignorent qu'ils sont malades. Pourquoi ils ignorent? Parce qu'on leur a jamais dit que ce comportement est un symptôme de la maladie. Parce qu'ils ont été à côté d'un ministère qui ne condamne pas certaines choses. Qui prend le mal pour le bien.
Et ils
estiment même la vie normale, c'est ça. J'aimerais dire ceci. Le mal ne devient pas bien parce qu'il est pratiqué par un grand nombre. Et le bien ou la vérité n'est pas atténué parce qu'elle est ignorée. 99% de personnes pratiqueront le mal, ça ne deviendra jamais le bien, ça restera le mal. Et l'une des stratégies du diable pour l'église du Congo est de nous empêcher de prendre conscience de notre maladie.
Il
veut nous laisser continuer, évoluer dans un état où nous n'avons pas conscience que nous sommes malades. Deuxième cause qui nous amène à ce point de non-retour, c'est la négligence. On est conscient qu'on est malade, mais on ne prend pas au sérieux la chose. On ne prend pas cela à bras le corps. On pense la maîtriser. On pense qu'on va s'en sortir. Ne négligez jamais le mal.
Comment on a mabete?
Ne négligez jamais le mal. Cette lèpre qui va finir par ronger les doigts et les orteils commence par une petite boursouflure
que
l'on néglige au départ, ce n'est qu'un bouton. Ce petit bouton va devenir quelque chose de plus grand. Dans
Actes
des Apôtres, chapitre 27,
verset 13
à 15, la Bible nous parle de ce qui se passe dans ce bateau où l'apôtre Paul se trouve. Ils sont en train de naviguer en route pour Rome. Un léger vent du sud vient à souffler.
Et
c'est ce que la Bible dit. Ces croyants maîtres de leur dessein. Ils
levèrent
l'ancre.
Ils
ont vu le vent. C'est un petit vent. On peut voguer. On peut naviguer. Il est vers l'ancre.
Ils côtoyèrent
de près l'île de Crète.
Mais
la Bible dit, mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle
Héraclion
s'est déchaîna. Les navires furent entraînés.
Ils ont fait des choses.
Ne néglige pas le mal. Homme de Dieu. Troisième raison qui amène au point de non-retour, c'est la légèreté dans le traitement et la prise en charge. On a un problème réel. Mais on reporte, je vais le vaincre demain. Le diable aime toujours nous faire croire que le meilleur jour pour vaincre un mal, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain.
Jérémie 6,
verset
14,
que nous avons mentionné hier. Il y a un mal profond. Il y a un mal qui s'est enraciné. Mais Dieu est étonné des gens de panacées utilisés. Il dit, il pense à la légère. La plaie de la fille de mon peuple. Traitement non proportionnel au mal.
Le
mal est profond. Quelqu'un fait de la fièvre et quand il prend quelques panadol, quelques paracétamol, pour un temps la fièvre part, il a l'impression qu'il est guéri. Ce n'est qu'une pause. Ne pensez jamais à la légère vos mots. La version parole de vie dit, ils ne prennent pas au sérieux la catastrophe qui atteint mon peuple. Ils disent tout va bien. Et pourtant tout va mal. Cinquième principe. La maladie peut être due à deux causes principales. La cause d'une maladie peut être externe à nous. Tout comme ça peut être interne à nous. Quand c'est interne, c'est un dysfonctionnement. inexplicable qui prend place, que nous n'arrivons ni à contrôler ni à maîtriser. Mais quand c'est extérieur, il y a attaque microbienne, attaque de bactéries, attaque de
virus.
Et parmi les causes externes, il y a une cause que des fois nous négligeons sur le plan spirituel. C'est l'hérédité spirituelle. Des mots et des tares transmis de père spirituel au fils spirituel. Faites attention. Quand vous voyez que celui qui est devant vous a certains tas, commencez à prier que Dieu vous éloigne de cela. Car nos pères spirituels nous communiquent des gènes et un ADN. Je bénis Dieu d'avoir appris les ABC de la foi auprès d'un homme qui avait l'ADN de la fidélité à sa femme. Et il m'a communiqué cela. 22 ans.
Pour
toucher à une autre, si ce n'est à cette candidate unique. Dans l'élection de ma vie, candidate unique. Il gagne des élections à 100%. Et j'ai communiqué l'ADN au pasteur Ken, 9 ans. J'ai communiqué l'ADN à Mbouma Tom, c'est
6
ans. J'ai communiqué à Blaise combien d'années?
3
ans.
Mbou.
Et je vous communique aussi, vous qui êtes maintenant
mes
enfants. Si avant d'être mes filles spirituelles, vous manquez cet ADN, je vous le communique au nom de Jésus.
Amen.
Mon pasteur disait ceci. Quand je vois les autres femmes, ce n'est pas que je ne les trouve pas belles. Mais sur le chemin de la vie, j'ai ramassé une fleur qui occupe ma main. J'apprécie les autres fleurs, mais je reste avec ma fleur. La mienne, elle est là. Je ne veux pas dire.
Et
quand je vois les autres femmes, je vois comme un autoblé qui marche.
Une femme
belle reste belle même si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Mais je dis, je resterai avec elle et elle seule. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui m'aide à dire Amen.
Amen.
Il y a un ADN qui nous est communiqué. Quand l'ADN vous est communiqué, il y a des traits de caractère que l'on ne voit pas au moment de la naissance, mais que l'on verra.
Un papa
colérique qui communique sa colère à l'enfant. Quand il est bébé, on ne voit pas.
Mais
quand il aura 5 ans, à l'école, il fait des dégâts. Il tabasse même les maîtres de 40 ans. ADN. Quelqu'un a dit Singa.
Le lien.
Et chacun de nous a un ADN spirituel. Reçu de son père spirituel. De la personne qui l'a encadré. Dans Genèse chapitre 1, verset
11.
Dieu a établi les principes. Il dit dans chaque fruit, il y aura des semences. Pourtant, on a la capacité de produire encore. Et il est bon que nous puissions savoir cela. Les principes de la semence qui permet qu'on se reproduise selon son espèce. Mon pasteur me disait cette vérité. Il y a un pasteur impudique qui aura des membres impudiques. S'il est impudique, même en coulisses, ses membres seront impudiques. Il peut être impudique et prêcher la fidélité, il aura des membres impudiques. Un pasteur menteur aura des membres menteurs. Le pasteur Vernon me disait cette phrase que je n'ai jamais oubliée. On ne communique pas ce que l'on dit, on communique ce que l'on est. On ne communique pas ce que l'on dit. Il peut vous dire, craignez Dieu. Mais dans l'assemblée, il a 4 copines. Quand il prêche sur la fidélité, et
oiseau
à gauche fait samedi tout ça qui n'a maya mungwa
maya
pembe
le samedi on était à maya pembe.
Ça montre que je ne connais pas bien l'endroit. Et toi qui as réagi rapidement, ça montre que tu connais l'endroit. Seigneur, pardonne-le. Sixième principe, la maladie, on peut l'éviter. La maladie n'est pas quelque chose d'irréversible. On peut l'éviter. Ou du moins éviter sa manifestation profonde. La maladie ne doit pas coûte que coûte s'imposer. Deux choses permettent qu'on puisse l'éviter. Premièrement, la prévention et les précautions. On parle de la fièvre typhoïde comme la maladie des mains sales. Un peu de principe de propreté. C'est laver les mains. Après être allé au grand et au petit besoin. Après avoir salué les gens. Avant de manger. Vous évitera cette maladie. Il y a des maladies spirituelles que l'on peut éviter. Une manière d'éviter certaines maladies spirituelles. C'est d'éviter d'être en contact avec certaines personnes. Il y a certaines personnes, je les aime, mais je les aime de loin. Je ne ferai jamais mes amis. Je les aime mais à distance. Parce que ceux avec qui vous vous assemblez, vous communiquent ce qu'ils sont. Ma Bible à moi dit, ne vous trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je vis des hommes de Dieu fidèles. Commencer à côtoyer des hommes de Dieu légers. Et ils sont devenus aussi légers. Critiquez-moi. Dites une vie en vase clos. Je préfère me protéger que de vous faire plaisir. Je ne suis pas appelé à être ami de tout le monde. Je suis frère dans le Seigneur à tout le monde, mais pas ami à tout le monde. Et les amis, on les choisit. Et il faut bien les choisir. Il faut bien les trier. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qu'il m'aide à dire Amen. Il y a des gens dont la compagnie va vous changer négativement. Combien peut voir des hommes de Dieu quand il était seul, il était bien. Depuis qu'il côtoie celui-ci, voilà ce qu'il est devenu. Un homme de Dieu a partagé à l'un de mes amis. Il a dit, va dire à Roland.
Alors, qu'est-ce que c'est à Roland?
J'ai appris que ces gens veulent le côtoyer. Va lui dire, ce ne sont pas des démons, ce sont des satans. Il dit, il y a l'un de j'ai dit, si le diable est l'aîné, lui c'est celui qui vient après. Et il a relaté ce qu'on lui a fait faire. Il avait quitté un coin de notre pays. À l'époque où le pays était divisé en trois. Il est venu ici à Kin. Longtemps, il n'arrivait pas à rejoindre l'autre coin. 8 mois, 9 mois, 12 mois. Et ses amis avec lesquels il était, il les regardait et disait, mais toi, tu es un extraterrestre. L'un lui a dit, est-ce que ton dos, je ne sais pas pourquoi on parle du dos, est-ce que ton dos est en bonne... Il dit, nous on a la femme principale, mais il a utilisé les termes, les katulakiadi. En français on dira quoi?
Les consolatrices.
Est-ce qu'on peut acclamer mon interprète? Et il a dit, je les voyais se comporter ainsi. Il a dit, un jour, j'ai tenu un séminaire dans l'église de l'un de ses amis. Et ils m'ont donné une jeune fille en disant, elle va t'aider, elle va tenir ton sac, et puis elle va t'aider à changer ta chemise et des choses comme ça. Elle raccompagnera à ton hôtel. Et elle rentrera le plus tard possible.
Je ne serai jamais banga
cela. Makambu, makambu banga yo.
Méfie-toi des problèmes. Ils s'en méfieront de toi.
Je préfère dire comme les gens de chez moi, Alain Fouangeba, Mbadi. Mbadi en français, on dit quoi? Mais tu avais gagné tout à l'heure, toi aussi. Il dit au troisième jour, il a dit à mon ami, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis tombé avec cette jeune fille. Là n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que 10 minutes après que la jeune fille soit partie, son téléphone a sonné. L'un des amis l'a appelé et dit, ah, ton nom est un extraterrestre.
Tu n'es qu'un humain comme nous.
10 minutes.
Minutes.
Elle a compris qu'elle était envoyée. Parce que justement, sur ma mission accomplie, elle a donné un rapport, c'est fait. Seigneur, regarde-nous. Ce qu'on y a à Philadelphie, qu'on met, qu'on croit.
À Philadelphie, pour tenter, tu vas tomber.
Oh, Nayeli Roland Dalo, Nayeli Ken.
Oh, je connais Roland Dalo, je connais Ken.
Zambé, na bengeli mbasu na mbebo. Je ne blague pas. À moins que tu ne te
répandes.
Et tu sauras que tu as touché là où il ne fallait pas. Est-ce que je peux parler librement?
Amen.
Il y a 4 ans. Il est là ce soir. Un jeune homme qui me coiffe. Il vient samedi me coiffer. Juste avant de me coiffer, il veut m'embrasser. Il dit, pasteur, je suis fier de toi. Est-ce que je peux t'embrasser? Je dis non. Dis-moi d'abord pourquoi puis-je te laisser. Laisse-moi d'abord t'embrasser puis-je te dire. Je dis non. Dis-moi d'abord, et puis je te laisse m'embrasser. Il dit, je suis fier de t'avoir comme pasteur. Il dit, est-ce que lundi, tu as reçu une jeune fille assez claire de teint qui s'appelle Fatou, au bureau vers
18h.
Je reçois tellement de gens que je dis, oui. Mais je dis, je me suis rendu compte d'une chose. Elle était presque pas habillée. Tout ce qu'elle portait comme habit, c'était diminutif d'habit. Chupette et blousette. Les 3/4 de sa poitrine dehors. J'avais pas rendez-vous. Ce jour-là, je suis venu lundi, je travaille de 8h à 13h. Je suis retourné à 15h simplement pour prier. J'étais resté avec pasteur Véron et notre secrétaire de l'époque. À l'époque, on était sur Mekongo Safi. Vers 17h45, il y a une dame là qui insiste, tu veux coûte que coûte te voir. Je dis, mais je n'ai pas rendez-vous. Elle dit, c'est une histoire de vie ou de mort. Je bénis Dieu pour cette secrétaire qui est maintenant aux États-Unis.
Il
dit, pasteur, ton bureau ici au fond et tu es seul, il n'y a presque personne. Va occuper le bureau du pasteur Véran et comme c'est devant le secrétaire, laisse la porte ouverte. Comme ça, il dit, pasteur, Ngamou nazo zimele. Que Dieu la bénisse, madame Pouela. Et cette dame est venue. Elle m'a parlé en 12 minutes d'une histoire sans tête ni queue qui était supposée une histoire de vie ou de mort. Quand elle a fini de parler, je me demandais quel est son problème. J'avais l'impression qu'on m'avait donné un problème de chimie analytique. Avec des CH qui se tirent. Et puis à la fin, je lui ai dit que Dieu t'aide. Est-ce que tu peux me donner ton numéro? J'aimerais qu'on garde contact. Pasteur, tu sais, moi, je n'ai pas d'amis, on peut devenir amis. J'ai dit, Funga
Kinyowe.
Et elle est partie.
Je
ne soupçonne rien.
Des fois,
on est naïf à nous. Et le jeune homme me dit alors vendredi, il était à Bandal coiffer quelqu'un. Il voit une jeune dame rentrer avec un véhicule et qui dit à son ami, Beta, 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 maman. Lundi, na kenenga na bureau pasteur na ni soko Roland Dalo, on dirait extraterrestre.
Le lundi, j'ai été au bureau du pasteur là, si c'est Roland Dalo, c'est comme un extraterrestre. C'est l'imam.
Petit lieu soko le connais mais soko talanga te. Na tikili yango vuma nyonso mais.
Je l'ai lui laissé
tout ça.
Quand il me parlait, il me regardait même pas.
Moi, je pensais avoir affaire à une âme.
Oh,
c'était Delila.
Delila.
Tu as tué Samson, mais tu ne me tueras pas. Il y a des maladies que l'on peut éviter. Il y a des maladies que l'on peut éviter. Par la prévention, par les précautions. Mais deuxième manière d'éviter les maladies, c'est par des check-ups et des contrôles réguliers de soi-même. Il y a des fois où il faut s'arrêter, vérifier, suis-je en bonne santé spirituelle. Certains ont appris chaque 6 mois de s'arrêter, vérifier le sang, vérifier le taux de sucre. On n'a pas besoin quelquefois les symptômes se présentent pour savoir qu'on est malade. En médecine même on dit le meilleur moyen de bien arrêter une maladie c'est de l'arrêter au début. Que des cancers, que des morts pour lesquels on dit si tu étais venu au début on aurait pu l'arrêter.
De
Corinthiens 13 verset 5
l'apôtre
dit examinez-vous vous-même, si vous êtes encore dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Homme de Dieu, apprenons à faire des check-ups spirituels et faites les sans complaisances. Où est-ce que j'en suis? Tu dois quelquefois t'arrêter. Je prêche l'évangile, les gens m'apprécient, mais je suis esclave de la pornographie. Personne ne voit ça quand je suis au bureau. Dieu, aide-moi. Fais un check-up. Examine-toi. Le feu pasteur Vernon me disait ces deux belles phrases. Il y a un rapport avec les faiblesses des hommes de Dieu. Dieu a deux manières pour guérir les faiblesses des hommes de Dieu. La première manière, il a dit c'est l'humilité. Et dans l'humilité, c'est moi qui prends l'initiative. Je vais vers mon frère le pasteur Blanchard. Je dis, Blanchard, je suis Roland Dalo que les gens apprécient. Mais j'ai un problème avec la pornographie. Prie pour moi. Parce qu'il y a des combats pour lesquels vous ne sortirez jamais vainqueur seul. Si vous n'allez pas exposer cela à quelqu'un. Il a dit, la Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Souvent nous aimons la partie d'avant de ces versets. La prière du juste a une grande efficacité.
Mais
c'est aussi attaché à confesser vos péchés les uns aux autres. Et il a dit, celui qui refuse l'humilité, l'initiative pour laquelle c'est l'homme qui prend l'initiative, qui prend le devant, j'allais dire, dans la stratégie de Dieu pour le guérir, il ne restera qu'une deuxième chose, l'humiliation. Et il disait dans l'humiliation, c'est Dieu qui prend l'initiative. Là où toi tu as refusé d'être exposé auprès de quelqu'un et guérir, Dieu va étaler ta nudité de tout le monde. Il dit quand il le fait, il sait que son nom aussi sera sali. Mais il s'est dit c'est le seul moyen qui me reste pour le guérir. Ce soir, homme de Dieu, j'aimerais te proposer de choisir l'humilité et de refuser l'humiliation. Quand vous voyez un homme être humilié, même s'il jure, ce
n'est que la première fois.
Si vous voyez Dieu exposer quelqu'un, me disait Jacques-André Vernon.
Il
dit quand Dieu expose quelqu'un, c'est qu'en coulisses, il lui a donné plusieurs possibilités. Et parce qu'il n'a pas accepté cela, Dieu dira, je vais l'exposer. Et ce soir, je parle comme un prophète. Il y a un homme de Dieu ici ce soir. Dieu a un pas du scandale. Tu es à un pas du scandale. Ce soir, tu peux arrêter cela en arrêtant ce style de vie. Tu n'es pas venu hier, tu es seulement venu aujourd'hui. Et Dieu a voulu par ma bouche te parler. Ce scandale ne s'impose pas. Tu peux l'éviter. Va parler à quelqu'un. Vous savez quand on est malade. Roland dans l'eau de 1m94. Je suis prêt à m'exposer devant une jeune femme. Je n'ai jamais oublié quand je commençais à avoir des menaces de faire une hernie.
Il y a hernie.
Avec mes 1m94. On m'a dit tu vas voir un médecin. Il
n'y
avait pas de prénom. Il n'y avait pas de prénom. J'avais vu seulement le nom.
Dès
que je rentre, c'est une dame. J'ai dit, ma sobele.
Seigneur, ça n'est fini pour moi.
1m60 quelques. Et on a parlé, il me connaissait, il me disait, pasteur, avec tout le respect que je vous dois, il faudra que j'examine. J'avais le choix entre ma respectabilité, mon honorabilité et la guérison. Mais parce que je n'ai pas voulu garder mon honorabilité, et quand j'ai enlevé les habits, j'ai dit, Nzambe, où me la mingite?
Je disais, Seigneur, que ça ne traîne pas trop.
Je fais une autre prière. Efface de sa mémoire tout ce qu'elle va voir maintenant. Qu'est-ce que vous choisissez? La guérison ou l'honorabilité? Et surtout toi, homme de Dieu, à qui Dieu me dit, tu as un pas du scandale. Mais tu peux l'éviter. Si tu es d'accord avec moi, dis
Amen.
Amen. Qu'il est difficile de trouver des personnes qui, comme les quatre lépreux, de 2 Rois 7-9, qui sans l'extérieur peuvent s'examiner eux-mêmes.
Et
un examen non complaisant.
Ce
n'est pas l'extérieur qui les a jugés. Ils se disent l'un à l'autre, ce que nous faisons n'est pas bien. Donne-nous quelqu'un qui va s'arrêter lui-même. Le style de vie que je mène n'est pas bien. Les actes que je pose, c'est pas bien. C'est pas l'extérieur qui a vu cela. Les films que je regarde, c'est pas bien. Les propos que j'adresse aux jeunes filles, c'est pas bien. Ce langage ambigu, c'est pas bien. Donne-moi quelqu'un qui va se juger lui-même. C'est un principe. Il y a deux éléments essentiels qui entrent en compte pour la guérison d'une maladie, surtout spirituelle. Le premier élément, c'est l'honnêteté. Honnêteté vis-à-vis de soi-même. Accepter et reconnaître qu'on est malade. Accepter et reconnaître qu'on est malade. Reconnaître cela. Se mettre d'accord avec Dieu, le Saint-Esprit. Je ne veux pas bien. J'aime l'homme de Romains 7. Sincère avec lui-même. Je veux faire le bien, mais je vois que c'est le mal qui est attaché à moi. Et dans Romains 7, 24,
ce
n'est pas l'extérieur qui lui colle ça. C'est lui-même qui dit misérable que je suis. Une traduction dynamique dit pauvre type que je suis. Donne-moi un prédicateur qui s'appellera lui-même pauvre type. Au même, j'ai ma photo sur les affiches, sur les banderoles, mais je suis un pauvre type, misérable que je suis. Honnêteté envers soi-même. Deuxième élément, c'est la volonté qui te poussera à chercher l'aide, à payer le prix pour retrouver la santé. Matthieu chapitre 8, versets 1 à 3, nous parle d'un lépreux guéri juste après le serment sur la montagne. Mais j'aime ce que le verset 2 dit. C'est comme s'il attendait que Jésus-Christ finisse l'enseignement. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui.
Il
dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il y a
15
ans, j'étais dans une ville de notre pays. Je prêchais durant 5 jours. Au 4e jour, le grand homme entre guillemets de Dieu de cette ville. Il est venu me voir, on a parlé de 22h à 3h du matin. Il parlait, ça coulait de yeux, ça coulait des narines, ça coulait de la bouche. Il dit, pasteur, on me respecte. Mais je suis en train de mourir. Cela fait 18 mois que je triche avec la jeune soeur de mon épouse. On a flirté plus de 15 fois. Nous sommes allés ensemble 10 fois. Il dit c'est toujours un cycle. Des fois c'est moi-même qui lui dis, moi je suis un homme de Dieu, on arrête. Et quelques temps après c'est moi-même qui retourne. Et elle s'est mise à me prêcher, dit, mais tu avais dit qu'on arrête. Et il est venu me parler. Je sentais que c'était un homme qui était tombé dans les péchés, mais ce n'était pas un pécheur professionnel.
Il
était faible, mais ce n'était pas quelqu'un qui conservait la faiblesse. Il a pleuré avec moi. On veut voir un cœur contrit. Et la Bible dit, Dieu ne dédaigne jamais de cœur contrit. J'ai parlé avec lui, j'ai prié avec.
Il
dit, mon épouse ne connaît rien. Elle pense même pas qu'il y a quelque chose. Les anciens à l'église, ma belle famille ne connaît rien. Mais voilà ce que je vis. Si vous avez de la volonté, vous allez vous en sortir. Dans Jean chapitre 5, au verset 6, Jésus-Christ rencontre un homme qui a un problème. Étonnant ce que ce passage dit. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps,
il
posa la question, veux-tu être guéri? Homme de Dieu, tu as cette maladie, as-tu la volonté d'être guéri? Veux-tu sortir de ce problème? Veux-tu que cette situation change? La volonté, huitième principe. Il y a des maladies spirituelles qui ont comme initiateur agent causal, mais en même temps personnel de maintenance, le diable lui-même qui joue ces trois rôles: initiateur, agent causal, mais personnel de maintenance, le diable lui-même qui non seulement fait arriver cette maladie en vous, mais l'encourage, la maintient, et cela dans un double but. Premièrement, vous mettre en porte-à-faux, en inimitié avec Dieu. Vous mettre en porte-à-faux avec Dieu. Et deuxièmement, vous amener lentement mais sûrement vers la destruction. Il va même vous encourager dans ce que vous faites.
1
Samuel 4, verset 11.
Nous
parle de la fin de deux fils d'Élie.
Ophni
et Phiné. 1 Samuel 2, verset 22 à 25. Nous parle des remarques pleines de souffrances venant d'un cœur. Le sacrificateur Élie. Mais la Bible dit, ils n'écoutèrent point la voix de leur père. Remarque vraie. Remarque pleine de compassion. Mais décision de rester. Ne soyez pas complices avec le diable pour votre propre destruction. Neuvième principe. Dans un milieu de maladies et même d'épidémies généralisées, et je parle des maladies et d'épidémies spirituelles, on peut faire le choix de se garder en bonne santé et de ne pas être aussi malade comme les autres. Seigneur, donne-nous des Samuel qui peuvent vivre avec Ophni et Phiné mais ne pas poser les actes. Tous les étudiants de la Bible disent, ceux qui apprennent auprès d'un sacrificateur, logé dans une pièce unique. Donc Samuel passait l'éclair de son temps avec Ophni et Phiné. Et le soir, quand il rentrait, Ophni disait à Phiné,
maman,
la dame que j'ai prise aujourd'hui.
Et Phiné aussi
rencontrait. Aujourd'hui, moi, j'ai pris un teint noir.
Tu peux habiter avec des corrompus. et ne pas être corrompu. Alors que Ophni et Phinéas se comportaient mal. Ma Bible dit dans 1 Samuel 2, 26. Le jeune Samuel continue à grandir. Il était agréable à Dieu et aux hommes. Malgré la pourriture. Seigneur, aide-moi. Dans Kinshasa, dans le Congo, malade, à rester comme Samuel. C'est pas facile. C'est difficile. Mais c'est possible. C'est possible. Daniel 1:8. Daniel résolut dans son cœur. Il y a des choses pour lesquelles il faut prendre des résolutions. Daniel résolut dans son cœur. Dixième principe. On ne peut pas voir les ravages de la maladie sans tirer des leçons et devenir sage. On ne peut pas avoir devant ses yeux les ravages de la maladie
et
ne pas tirer des leçons
et
devenir sage. Mon père qui est présent, un enseignant depuis que je le connais,
il
me disait cette phrase que je répète souvent.
Il
me disait, Roland, dans la vie, il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs.
Les
anciennes gaffes qui trouvent de nouveaux candidats pour les commettre.
Et
il me disait, celui qui ne tire pas les leçons des erreurs des autres sera appelé à commettre et à devenir une référence. Comment être un Samuel? Avoir été témoin. Quand ce jour-là, Dieu a envoyé un homme de Dieu pour venir menacer Élie et ses fils. Et que plus tard, Dieu utilise sa propre bouche pour parler à ces vieux sacrificateurs réputés.
1
Samuel 3, 11 à 14. Voici, je vais faire en Israël les choses qui vont étourdir les oreilles de ceux qui vont l'entendre. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que je prononcer contre sa maison. Et Dieu envoie Samuel pour lui dire, je commencerai et j'achèverai. J'aimerais dire, Dieu est bon, mais il est juste. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité. Parce que ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés.
1
Samuel 4, 11 à 18. Je puis m'imaginer ce que Samuel a ressenti quand on est venu lui dire Ophni et Phinéas sont morts sur les champs de bataille. Et quand on est venu lui dire, quand on a annoncé la nouvelle à Élie, il est tombé, il est mort. Il a assisté à leur deuil. Il a vu ce qui, les jeunes gens qui blaguaient la nuit quand ils relataient leurs exploits, il les a vus sans vie. Il a vu Phinéas frappé par Dieu. Ah, j'entends quelqu'un dire, ça c'était l'époque de la loi. Nous sommes sous la grâce. Je vous amènerai ce soir, Papa Nkelani. Qui un jour en prêchant, il dit, Bino Batubolobaka, grâce, grâce.
Avez-vous qui dites grâce, grâce?
Il dit dans Acte 5,
c'est
sous la grâce. Et écoutez, Papa Nkelani, le Saint-Esprit lui-même a assassiné Ananias et Saphira. Papa Nkelani, il dit, le Saint-Esprit lui-même a assassiné.
Quand?
Sous la grâce. Et quand on a vu de telles choses, on ne peut que trembler. Qui n'a pas connu Jérémie Mayemba Schengen? Qui n'a pas connu Schengen? Prophétie avec concision, précision. Prophète avec P majuscule. Devant Jérémie de l'époque, Réma c'est un bébé, école maternelle. Mort comme un cancrela. Le corps en train de pourrir. On a dû courir à gauche et à droite pour chercher l'argent des cotisations. Il y a des gens qui vivent comme si ça n'a jamais existé. Celui qui a vu la maladie frappé devient sage. J'ai vu des aînés à qui Dieu a donné Kinshasa. Dieu a donné le Congo. Mais quand la maladie est rentrée, ils ont le même message, la même onction. Mais certaines portes ne s'ouvrent plus. Et nous, les jeunes, nous vivons comme s'il n'y a pas eu un passé. La Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour vous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. On peut ne pas voir ces choses
et
rester la même personne. Je sens dans mon cœur que je dois arrêter là ce soir. Sans même aborder la première maladie. J'ai à cœur comme hier de nous inviter tous à jeûner.
Je suis touché.